aujourd'hui la masterclass de Chantal Thomas avec Raphaël Bourgois.
Chantal Thomas, vous êtes chercheuse, essayiste, romancière, auteure de théâtre, spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle. On vous connaît notamment pour « Les adieux à la reine », prix Femina en 2002, et « L'échange des princesses » paru en 2013, deux romans qui ont d'ailleurs été adaptés au cinéma, le premier par Benoît Jacquot et le second par Marc Duguin. Comme dans « Le testament d'Olympe », sorti entre les deux, vous nous plongiez dans les coulisses de Versailles et du théâtre de la monarchie à travers les yeux de femmes ou de petites filles, la lectrice de la reine Marie-Antoinette, les maîtresses non favorites de Louis XV, les jeunes princesses prises dans les jeux diplomatiques de la Régence. Ce XVIIIe siècle qui sert de cadre à vos romans, c'est aussi votre objet d'étude à travers la figure de Sade, de Casanova ou encore des salonnières dans l'esprit de la conversation. La question des femmes, de leur liberté, de leur rapport à l'éducation traverse d'ailleurs toute votre œuvre. Mais l'amour de la littérature ne s'arrête pas aux portes du siècle des Lumières, bien évidemment. Vous avez consacré un essai à Roland Barthes, qui fut votre directeur de thèse, et à Thomas Bernhardt. Il faut signaler enfin un dernier pan de votre travail, franchement autobiographique, dans « Souvenirs de la marée basse », où vous revenez sur votre enfance à Arcachon, ou sous la forme de l'autobiographie indirecte, ce genre qui mêle lecture et souvenirs personnels, et que vous avez inventé dans « Comment supporter sa liberté », ou plus récemment « Souffrir ». Nous allons tout au cours de cette heure, Chantal Thomas, plonger dans la fabrique de l'écriture, qu'elle soit de fiction ou de non-fiction, comme disent les anglo-saxons. Mais puisqu'il faut commencer quelque part, nous pourrions remonter dans cette enfance qui vous est si chère. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières lectures et de comment est née la vocation d'écrire, si vocation il y a eu ?
Des premières lectures elles n'ont pas eu un effet très fort sur moi, mais ce dont je me souviens, c'était de l'espèce de folie d'inventer des histoires qui me liait à mon ami inséparable d'enfance. Alors, je crois qu'on lisait peut-être des romans ou des livres pour enfants, mais ça n'avait pas un très fort effet, sauf que je crois qu'on les métamorphosait immédiatement et qu'on construisait, qui doublait le réel de notre vie, une sorte de saga perpétuelle. Et dans Souvenir de la marée basse, j'ai réinventé la princesse du palais des mers, mais c'était l'esprit de ce qu'on faisait, c'était ça. C'était, on est à la plage, on passe sous une jetée, et à ce moment-là, on se raconte une histoire. Alors, c'était plus une manière de faire entrer la fiction. C'était un mélange d'intensité des émotions et d'élan, et même de fureur fictionnelle et fictive. C'était ça. Mais vocation d'écrivain, alors, franchement, ça ne m'a pas effleuré pendant très très longtemps.
Et ça arrive à quel
même
moment,
maintenant, je ne sais pas si je suis très convaincue. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aimais parler, j'aimais raconter des histoires, j'aimais tout. Et ça continue, tout ce qui surgit d'une manière improviste, improvisée. Cette sorte de quelque chose est attendu, mais non, quelqu'un dit une parole qui tout d'un coup vous fait diverger. Ça, depuis toujours, ça a été l'origine de ce qui me lie au langage.
On va revenir évidemment sur ce lien très fort que vous entretenez avec le langage, Chantal Thomas, mais sur cette notion d'enfance en fait et de liberté, c'est quelque chose sur lequel vous êtes beaucoup de fois revenu, notamment cette enfance à Arcachon, comme je l'évoquais, et cette enfance à la plage en quelque sorte, oui. Ce thème de la liberté qui évidemment traverse toute votre œuvre quand vous travaillez sur Sade ou sur Casanova, ou quand vous interrogez la situation de ces jeunes princesses qui sont mariées pour assurer la sécurité au royaume de France par le régent Philippe d'Orléans et qui, dans un échange avec le roi d'Espagne, sont mariées pour assurer, après la guerre sanglante et ruineuse contre l'Espagne, pour assurer une forme de sécurité à la France. Et donc, j'aimerais vous entendre sur cette liberté qui traverse votre...
Alors, sur l'enfance, je n'ai pas à revenir. C'est plutôt une disposition intérieure qui m'accompagne. Et c'est là, vous voyez. Et ce que je dois à cette enfance, c'est une confiance, et une confiance physique. Et après, tout ce qui a pu se jouer intellectuellement était pris dans cette confiance, dans cette acceptation. Et quand j'ai lu Nietzsche, j'ai adoré cette chose de dire oui. Alors, d'avoir grandi à la plage, d'avoir grandi au bord de mer, en exergue de Souvenir à la marée basse, j'ai mis une phrase de Colette que j'adore, où elle dit « L'enfant veut une vague salée, la mer. » Et cette façon d'aller vers la vague sans avoir peur. Et donc cette liberté, avant de la penser comme un concept et comme une ligne de conduite et une revendication, possiblement, elle était plutôt dans une liberté d'agir. Je pense, j'ai relu récemment L'Africain, le très beau livre de Le Clésio, et il parle de son enfance en Afrique et de cette sorte d'accès qu'il avait avec son frère de courir éperdument, de courir jusqu'à épuisement. Et ça, c'est une sorte de perception physique, instinctuelle de la liberté, à partir de laquelle, évidemment, plus tard, on construit sa vision du monde.
Cette liberté, vous êtes interrogé dans un essai. Comment supporter sa liberté sur la capacité qu'on peut avoir, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à vivre et à porter cette liberté? Vous allez nous en parler, évidemment, mais c'est un essai aussi où vous faisiez l'éloge de la lecture. Et c'est pour ça que je voulais vous entendre dès le début sur cette question, Chantal Thomas, sur cette éloge de la lecture qui vous accompagne. C'est aussi le personnage, par exemple, d'Agathe Denis Laborde dans Les Adieux à la Reine, qui est la lectrice de Marie-Antoinette. Reviennent beaucoup à différents moments dans votre travail. Je pense par exemple à, quand vous citez Thomas Bernhard, « Je m'avançais dans le monde, mon livre à la main ». La lecture, c'est quoi? C'est un rempart contre le monde? C'est quelque chose qui vous accompagne?
Au début, je n'ai pas répondu à cette question de l'enfance et la lecture, parce que la lecture, pour moi, c'est un peu plus tardif. Ouais. C'est vers 15 ans. Oui, 15 ans, 14, 15 ans, c'est pas tout, c'est pas lié à l'enfance. Quand je pense enfance, je pense plutôt le soleil, les embruns, mais pas les livres. Mais oui, à partir de du lycée, un peu lire m'a captivé. Pas du tout comme un rempart contre le monde, mais comme tous les enfants, j'adorais construire des cabanes ou sur la plage, dessiner des enclos. Et la lecture, c'est un petit toit au-dessus de soi et à l'intérieur duquel, à la fois, on nous donne un contenu, mais aussi, on le réinvente immédiatement. Et donc, c'est un lieu d'enchantement. Et d'ailleurs, les adultes, souvent, n'ont pas envie que les enfants lisent trop. L'été dernier, il y avait une petite fille qui allait à la plage où je vais, et elle avait trouvé une encoignure dans un rocher, et à l'intérieur de cette encoignure, elle lisait. Et elle était comme une petite chouette dans son nid, et je voyais que ça exaspérait sa mère.
Ce rôle du livre qui aide à survivre, vous le soulignez aussi dans un autre essai, souffrir. Je crois que la lecture peut nous sauver réellement, mais la lecture peut aussi nous dévorer à certains moments. Cette petite fille sur la plage, oui. Je ne sais pas si elle était dévorée par la lecture, mais à certains moments, et vous le racontez aussi dans vos années d'étudiante, on peut se perdre dans la lecture.
Ah, c'est sûr. Et quand j'ai écrit ma thèse sur Sade avec Roland Barthes, mon idée de base, j'y repense maintenant, parce que c'était autour de ça. C'était l'idée que Justine était celle qui lisait et qui subissait et qui laissait s'inscrire sur son corps les fantasmes des autres. Et Juliette était celle qui renversait le processus et qui s'inventait ses propres fantasmes et les vivait et en jouissait. Donc c'était évidemment un rite de passage pour moi d'écrire ce texte, en plus de l'écrire pour Roland Barthes. C'était un rite de passage de la lecture à l'écriture. Et vous le savez sans doute, le séminaire de Roland Barthes, c'était il a eu la formule d'un jardin suspendu. C'était un jardin suspendu entre deux extrêmes, pas deux extrêmes, mais deux pôles, lire et rester indéfiniment à l'état de rêveur, qui d'ailleurs se défend totalement, parfaitement, ou écrire et devenir scripteur et accepter que quelque chose du rêve s'abolisse.
Vous avez fait vos études à Bordeaux, vous le racontez. Revient souvent cette image, cette figure de la chambre d'étudiante, la chambre d'enfant, la chambre de bonne plus tard, cette quasi-chambre dans laquelle Roland Barthes faisait son séminaire, voilà, cette chambre de bonne dans laquelle Roland Barthes faisait son séminaire. Est-ce qu'il y a des lieux comme ça qui vous accompagnent et qui sont des lieux propices à l'écriture?
Ah oui, l'écriture et la lecture, la chambre, en effet. Bon, j'ai adoré les chambres de bonne, vraiment. Leur inconfort ne me gênait pas. Je déménageais tout le temps. Il y avait une sorte de facilité à passer d'une chambre à l'autre. Et les maisons, non. Peut-être c'est trop massif ou trop un peu lourd, je ne sais pas. Les maisons, je ne les habite pas bien. Mais si j'ai réussi à isoler une chambre, ça va. Évidemment, je ne suis pas obligée de porter toute la maison. Mais bon, oui, alors certaines chambres sont propices à l'écriture, d'autres moins. Il faut qu'elles soient en hauteur et avec une fenêtre ouverte sur le dehors, sur le ciel, autant que possible. Et les chambres d'hôtel, par exemple, m'inspirent.
Vous n'avez pas besoin de...
Il y a l'idée de passage dans une chambre, on passe.
Une chambre où on passe. Il ne faut pas que ce soit une chambre fixe, non, toujours la même.
J'ai pas un bureau, par exemple.
Alors la chambre, c'est un espace évidemment clos, une chambre à soi, Virginie Woolf.
Ah oui, alors ça c'est le grand texte qui continue de m'éclairer. Une chambre à soi de Virginia Woolf. Oui, c'est magnifique. Et elle dit aussi, elle pose vraiment les deux conditions, puisqu'il s'agit de écrire, qui est... Pour écrire, il faut une chambre à soi et un minimum de moyens financiers qui vous rend indépendante. Et c'est sûr que quand j'ai lu ça, ça paraît simple, mais j'ai eu une impression d'évidence totale et que beaucoup de personnes, et en particulier de femmes, ne peuvent pas écrire parce que, justement, elles n'ont pas une chambre à soi. Et pendant très, très, très longtemps, je pense à ma grand-mère ou ma mère, elle n'avait pas de moyens financiers autonomes, pour rien dire du 17e, 18e, 19e siècle, où les femmes n'avaient vraiment rien, puisque même leur héritage ne leur appartenait pas.
Puisqu'on cite Virginia Woolf, Chantal Thomas, il faut parler d'une autre intellectuelle très importante qui est Simone de Beauvoir, que vous découvrez en arrivant en philo. Et c'est aussi toujours la même question, la question de la liberté et la question aussi de pouvoir finalement sortir d'un modèle féminin traditionnel tel que celui de votre mère ou de votre grand-mère dont vous venez de parler.
C'est sûr, je ne voulais pas répéter. Ça, c'est sûr. Et puis, il me semblait que... Peut-être ça aussi, c'est de grandir au bord de la mer, de voir les bateaux partir. Il me semblait que la circulation dans le monde était une chose très belle. Et s'en priver, peut-être c'est pour ça que je n'ai pas de sympathie pour les maisons. S'en priver, ça me paraissait très, très dommage.
C'est facile ou c'est difficile pour vous d'écrire, Chantal Thomas? Est-ce que l'écriture vous vient facilement?
Oui, enfin je veux dire...
C'est pas un combat contre la page blanche?
Ah, c'est pas du tout un combat, non. J'ai plutôt l'impression que c'est quand j'écris, j'ai immédiatement une sorte de... Même si c'est pas exactement... J'obtiens pas tout de suite ce que je désire, j'ai plutôt l'impression d'aller dans le sens d'un plaisir, du côté d'un plaisir. Comme quand on fait du ski, On peut tomber, se faire mal et tout, mais on n'aurait pas l'idée de remonter la pente de l'autre côté.
Est-ce que vous avez déjà eu envie de réécrire, de reprendre un livre que vous aviez pu terminer ?
Un livre publié que je voudrais refaire ?
Oui.
Ça doit être pénible comme sentiment, non ?
Probablement.
Je sais que Roland Barthes, quand il a publié « Degré zéro de l'écriture », il a dit aux étudiants, il évitait les coins de rue où il y avait la librairie qui exposait le livre. Non, mais je peux avoir, justement, à propos de Roland Barthes, le petit livre que j'ai fait pour Roland Barthes, qui est essentiellement un recueil d'articles déjà parus. Non, je ne suis pas contente de la fin. Puisque, oui, en effet, je ne voudrais pas le réécrire, mais je voudrais ajouter une conclusion. Mais je ne sais pas comment faire.
Oui. Qui prendrait quelle forme ?
Ben, une forme. Comment, quelle forme ?
Non, mais qu'est-ce que vous aimeriez dire dans cette conclusion que vous n'avez pu lire dans...
Parce que je termine sur Roland Barthes, comment il a été toujours au bord d'une écriture romanesque. Et maintenant, je pense que c'est faux. Je pense qu'il a trouvé, en particulier dans La Chambre claire, un idéal qui n'était qu'à lui, un équilibre qui n'était qu'à lui, qui était quelque chose entre l'essai, la réflexion, l'émotion et le mystère d'une personne. Parce qu'il disait qu'il voulait écrire pour célébrer l'amour des personnes, d'une personne, en fait, c'est sa mère. Et je pense qu'il l'a fait dans La Chambre claire. Donc maintenant, j'écrirai une préface beaucoup plus... surplombante sur lui et la relation pédagogique qu'il rendait possible.
Quand on pense à Roland Barthes, on pense aussi au fragment d'un discours amoureux, par exemple, et donc à cette écriture fragmentaire.
Voilà, qui est extraordinaire, qui n'est qu'à lui.
Et est-ce que c'est pas un peu le chemin que vous suivez aussi dans vos autobiographies ?
Ah, mais c'est sûr. Autant quand j'étais étudiante en philosophie à Bordeaux, puis à Aix-en-Provence, j'ai été complètement déçue, vraiment. Je me suis dit, franchement, si c'est ça la philosophie, ça ne va pas me mener loin. Hein. Non, parce que vraiment, Husserl répondant à Kant et des choses comme ça, et je me disais, bon, je vais faire autre chose, je vais voyager. Ce qui était ce que je désirais. Je vais voyager en lisant et en écrivant et en rencontrant. Et un ami m'a parlé donc de Roland Barthes, de son séminaire qui était à ce moment-là déjà assez restreint. Et je suis allée le voir. Et je ne savais pas vraiment ce qu'il faisait. Et je suis allée le voir. Et ce qui est drôle, c'est qu'il m'a demandé quel était mon sujet de thèse. J'en avais pas vraiment. Et j'ai dit... Parce que justement, je venais de voir le livre de Guyotat en vitrine, j'ai dit « Guyotat ». Et il a dit, mais on peut se revoir.
Et finalement, c'était Sade.
Et quand on s'est revus, j'ai dit « Sade », il a dit « Ah, je comprends mieux ».
Je crois qu'il travaillait lui aussi sur Sade au même moment.
Exactement.
Vous ne le saviez
pas. Mais non, je ne savais pas. Il était très secret. Ça, c'est beau. Oui.
Et pourquoi vous aviez choisi
Sade? Donc c'est quand j'ai rencontré Roland Barthes que j'ai eu le sentiment, au sens zen du terme, de rencontrer un maître. Et il a inspiré réellement, profondément, la direction de ce que j'écris, qui est un passage souple et en douceur et en revirement entre l'essai, la réflexion, l'imagination et... toute une dimension de fantasme historique qui, ça, n'est pas du tout barthésienne.
Vous abordez avec Roland Barthes, sous la direction de Roland Barthes, cette thèse sur Sade, et c'est votre entrée dans le XVIIIe siècle.
Oui. Curieusement, d'ailleurs, parce que je ne me rendais pas vraiment compte des siècles, et c'est en m'apercevant à quel point j'aimais... l'écriture de Sade, mais aussi celle de Jean-Jacques Rousseau ou celle extraordinaire de Diderot, une sorte de pétillement jubilatoire. Et plus tard, au XIXe siècle, pourquoi c'est Stendhal que j'aime plus que tout. Donc il y a vraiment quelque chose qui est un certain idéal stylistique et même musical qui est née au XVIIIe siècle et qui est ce qui me la pulsion qui me porte à l'écriture. Quelque chose dans la clarté et dans une gaieté.
Et qu'est-ce qui vous fait choisir d'aborder ce siècle plutôt sous la forme d'un essai ou la forme d'un roman?
J'ai d'abord écrit des essais et je suis partie de la lecture, je suis partie d'être une lectrice. Et c'est cette sorte de tremplin qui m'a conduit vers l'écriture. Et donc c'est très, très naturellement, si je puis dire, que j'ai écrit des essais sur Sade ou Casanova ou Marie-Antoinette. Mais justement, à partir de Casanova ou Marie-Antoinette, quelque chose de la fiction, de ce que la fiction permet, et en particulier de toute cette matière qui est liée au rêve, au silence, et surtout à la texture du monde, tout ça que l'essai doit abandonner, en tous les cas, oui, a comme demandé à exister, et voilà, j'ai écrit le passage qui est même d'une clarté incroyable, c'est le passage de La Reine scélérate, où j'analyse la manière dont Marie-Antoinette a été traitée en cible par les pamphlets, et le passage de La Reine scélérate où j'avais vraiment une idée démonstratrice, avec la finalité de faire une seule trajectoire de toutes les calomnies qu'on avait versées sur elle à l'accusation finale durant son procès. Donc c'est une sorte de flèche lancée, un essai. Et les adieux à la reine, où justement c'est l'inverse, où se dresse une personne sur laquelle j'ai aucun jugement, qui existe dans sa fragilité, dans aussi ses multiples facettes, et sans qu'on puisse conclure. C'est un monde, ce qui est beau dans la fiction, je trouve, c'est que c'est un monde qu'on peut faire surgir. Et dans l'essai, c'est une jouissance beaucoup plus intellectuelle.
Donc cette insatisfaction face à l'essai que vous consacrez à Marie-Antoinette vous amène à ce roman, mais pourtant vous ne choisissez pas d'écrire directement sur Marie-Antoinette. Je veux dire que vous prenez un personnage qui est Agathie Denis Laborde, la lectrice ou la lectrice adjointe de Marie-Antoinette.
C'était son titre.
Ça m'est revenu au moment où...
C'était son titre. Je suis allée regarder dans la liste de toutes les personnes employées alors à Versailles et j'ai vu lectrice adjointe. Alors je me dis, ça c'est pour moi.
C'est encore mieux adjointe que lectrice.
Bah oui, parce qu'elle avait encore moins à faire, il faut bien le dire. Non, vraiment, c'est une responsabilité minime.
Et donc c'est à travers ce regard passionné de cette lectrice, pas du tout, on est vraiment dans la subjectivité la plus totale, que vous abordez cette situation à Versailles au moment de la Révolution, mais par un petit peu les coulisses. Ce sont un peu les angles morts qui vous intéressent dans cette situation.
Chantal, oui, alors la Révolution, moi je travaillais à ce moment-là au Centre de Recherche 18e siècle à Lyon, et on avait travaillé sur la presse, en particulier sur la presse révolutionnaire. Donc sur la Révolution, vraiment, je connaissais minutieusement les événements, la suite des événements. Mais par les journaux, j'ai vu aussi à quel point, quand on reconstruit l'histoire, il y a des pans entiers qui tombent. Et en particulier, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passait à Versailles juste après la Révolution ? C'est vrai.
Et parce que Versailles, c'est quand même 3000 personnes qui vivent ou quelque chose comme ça. C'est un beau village, même, plus qu'un petit village.
Oui, et tout évidemment, tout est centré du côté du progrès, de l'histoire, des vainqueurs. Mais qu'est-ce qui se passait de l'autre côté ? Donc ça m'a vraiment fascinée. C'est aussi... Évidemment, quand on écrit des romans, on est dépassé, alors que quand on écrit des essais, on a l'impression qu'on contrôle mieux ce qu'on veut dire. Et Et je m'aperçois qu'il y a quelque chose... Alors là, ça, je reviens à votre première question ou à votre première indication. Il y a quelque chose de l'enfance qui, dans les romans, perdure d'une manière beaucoup plus obstinée. C'est-à-dire que Versailles, maintenant que j'y pense par rapport à Olympe ou bien après à l'échange des princesses, à chaque fois, je reconstruis un château. Et c'est un château à la fois... du conte de fées, et comme tout conte de fées, c'est aussi un château de la malédiction. Et les trois livres sont liés à ça, et je pense peut-être mon idée de l'enfance aussi, ou mon idée du monde aussi.
Et comment vient justement l'idée de ces livres ? Comment vous vient une idée de traiter la question aussi sérieuse de la régence et de la relation entre la France et l'Espagne, mais à travers les yeux de ces princesses, l'idée d'aller voir du côté des favorites de Louis XV, mais qui ne sont pas évidemment Madame de Pompadour, qui sont maintenues d'ailleurs à l'extérieur de Versailles, qui n'ont pas le droit d'y rentrer.
Au parc aux Cerfs, qui est une maison qui existe toujours. Vide, bien sûr. Enfin, je pense. Mais c'est à chaque fois, d'une certaine façon, il y a un essai. Vous voyez, pour Marie-Antoinette, j'avais lu énormément dans l'enfer pour les pamphlets. Et donc, j'ai recopié pendant des mois, parce qu'une année, ces horreurs au crayon, enfin, je veux dire.
L'enfer, c'est l'enfer de la bibliothèque nationale.
Voilà, je me disais, s'il y a une victime ici, c'est bien moi. C'est un sentiment terrible. Et c'était à Richelieu, et je sortais, et je passais devant l'hôtel sur lequel était écrit Stendhal, ici, a écrit Le Rouge et le Noir, en, je ne sais pas, quelques mois, quoi. Je me disais que c'est terrible, quand même. La différence de destin.
Entre écrire Le Rouge et le Noir en quelques mois et passer
une année... Et recopier au crayon ces ordures. Et donc là, le passage entre la reine scélérate et les adieux à la reine, c'est très visible. J'avais tous ces documents. Et ensuite, oui, pourquoi quelque chose émerge qui devient fiction ? Et pour l'échange des princesses, c'est exactement pareil. C'est-à-dire avec notre groupe de recherche, on a fait un livre collectif sur le régent, que j'ai co-dirigé avec Denis Reynaud. Et c'était le régent sous toutes les facettes. Donc c'était extrêmement savant, érudit, il y avait tout. Et dans cette totalité a émergé la figure de cette petite infante fiancée à Louis XV, et par le biais de Saint-Simon. Ça a été lui qui m'a conduite à ces deux enfants.
Est-ce que vous appliquez une méthode de travail, Chantal Thomas ? Est-ce que c'est la même, finalement ? On voit bien qu'il y a une continuité entre votre travail d'intellectuelle, de chercheuse, et ce travail, s'il faut parler de travail, vous me direz ce que vous en pensez, de romancière. Est-ce que vous vous astreignez à une méthode, des horaires, des étapes, peut-être des rituels ? J'ai compris que vous n'étiez pas forcément fétichiste du lieu où vous écrivez, mais peut-être qu'il y a
non,
des rituels.
Non, le nomadisme, c'est vrai, m'aide plutôt. Mais j'ai pas de si j'ai certains rituels au sens où j'écris l'après-midi, je travaille l'après-midi, j'écris l'après-midi. Oui.
Vous disiez que les premiers romans naissent d'une certaine insatisfaction face au travail sur les essais, Chantal Thomas. Est-ce que les livres naissent en réaction les uns aux autres ?
Alors je trouve pas vraiment le mot, mais il s'agit pas vraiment d'insatisfaction. Il s'agit plutôt d'un débordement. Que j'ai eu l'impression que je le savais dès le début avec Sade, mais ça, j'aurais pas pu affronter les forces qui me poussaient à écrire sur Sade. Mais plus tard, avec le livre sur Marie-Antoinette ou avec Casanova, il était plus facile de me dire qu'il y avait. Que c'était une facette ou un fragment ou une fenêtre sur un monde beaucoup plus vaste ou sur un fleuve. Beaucoup plus porteur et complexe, mais qui risquait de me submerger. Mais là, j'étais d'accord, et je pouvais le faire. Vous voyez, c'est plutôt ça. Et c'est lié au rêve aussi.
C'est lié au rêve.
Oui, c'est-à-dire que, bon, évidemment, tout le monde, c'est la vérité pour tout le monde, mais je suis très attentive aux rêves, je note mes rêves, et certains rêves récurrents. Au moment où j'écrivais des essais, m'indiquait clairement que dans l'essai, je ne faisais pas tout passer. En tous les cas, non, pas tout, quoi.
Et ce qui ne passe pas, c'est notamment une certaine forme de sensualité.
Voilà. Et aussi, il y a cette phrase que je cite souvent parce que j'adore de Baudelaire, où il dit, dans la Déclaration des droits de l'homme, on en a oublié deux, dit de l'homme, le droit de s'en aller et le droit de se contredire. Et c'est vrai, le droit de s'en aller, c'est vraiment fondamental, et le droit de se contredire aussi. Mais, par exemple, quand on est professeur, c'est un vrai problème. Se contredire, on se met tout de suite en position d'être accusé. Ou aussi, si on prend la parole publiquement dans une assemblée, si vous faites un topo totalement contradictoire, c'est effrayant l'effet que ça fait, c'est vraiment effrayant. Alors que dans un roman, et moi j'adore les romans d'Aragon, par exemple, plusieurs points de vue en même temps sont portés par plusieurs personnages, ou même par un personnage divisé, comme dans La Semaine Sainte. Et ça, et là aussi, je pense que le personnage de Marie-Antoinette est pour moi fondamental, parce qu'elle est une personne sur laquelle il y a très peu, qui a très peu écrit, donc sur laquelle on a énormément projeté, et elle-même, dans sa vie, elle a eu, disons, deux phases, en tous les cas, je dirais trois même, qui ne collent pas vraiment ensemble, qui sont vraiment disparates, vous voyez. Et ça, je pense que le roman, c'est pour le roman, ces situations-là. C'est ce qu'on est, d'ailleurs, vous voyez, cette obscurité.
Puisque vous parliez de l'importance des lieux, je crois que pour les adieux à la reine, vous avez terminé le roman à Versailles.
À Versailles même.
Sur Casanova, vous êtes allé à Venise, qui ne voudrait pas aller à Venise de toute façon.
Oui, non, j'étais allée souvent, oui.
Et c'est important de vous imprégner, est-ce que...
Ah oui. J'ai passé du temps à Versailles. J'ai en effet habité la rue des Récollets, où je fais commencer l'histoire. Et pour l'échange des princesses, je suis allée en Espagne... Dans tous les palais où Anna Maria a habité, j'ai passé beaucoup de temps à regarder les tableaux au Prado, qui sont extraordinaires, la salle où il y a toute la famille royale espagnole. Donc je fonctionne beaucoup, je me laisse imprégner.
Comment vous abordez la question du style dans ces romans qui se déroule donc au XVIIIe siècle. Vous n'utilisez pas une langue du XVIIIe siècle. En tout cas, ce n'est pas forcément ce que vous recherchez. Et donc, ce n'est pas la question de l'exactitude à ce titre-là. Il n'y a pas la recherche d'une exactitude historique qui passerait par la langue.
Mais si on pense l'écriture du XVIIIe siècle, par exemple, prenez un texte de Voltaire, ça vous paraît une langue ancienne ?
C'est une construction d'esprit de se dire qu'il faudrait une langue particulière.
Mais la langue du XVIIIe siècle, elle est pas très 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 éloignée, il me semble. En tout cas, moi, je me pose pas vraiment la question. Autant au XVIIe siècle, je pense que c'est une vraie question, ou au XVIe encore plus, et je vois ce qu'avait fait François Chandernagor, mais pour Madame de Maintenon. Mais au XVIIIe. Non, de toute façon, je ne me pose pas vraiment la question parce que ça bloquerait la spontanéité et la manière dont je vis ce siècle sans trop réfléchir, en tout cas sans section comme ça chronologique.
Qu'est-ce qui vous a attiré, Chantal Thomas, dans Versailles, qui est devenu ce personnage central ? C'est un peu impensif de le dire comme ça quand un lieu devient un personnage,
si.
Mais malgré tout,
c'est
vrai. C'est quand même vrai dans vos romans.
C'est
dans
tout
vos
à fait vrai. Et même, ça continue de m'obséder. Mais je crois que c'est cette idée du château, par excellence, et du souterrain, du secret, et du faste, et de l'envers du faste. Et pour moi, dans mon enfance, c'était vraiment le faste et l'envers du faste, parce que j'avais une marraine qui habitait Versailles et qui m'amenait régulièrement au château. Visiter le château, reprendre les allées, et cette femme me déprimait au dernier degré. Et quelquefois, je pense que j'ai c'est grâce à elle et pour surmonter cet abîme d'ennui qu'elle transportait avec elle que j'ai repeuplé Versailles selon mon gré et dans la joie et sur un mode communicatif. Et ça, je suis très heureuse.
Et on l'est aussi, évidemment, à vous lire, Chantal Thomas. Restituer l'histoire, c'est aussi restituer l'incertitude d'une époque. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous parlez de la Révolution française, ce moment de la Révolution française, on a tous en tête les épisodes importants de ce moment-là, de cette époque et de ce moment. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt de montrer que quand on vit le présent, en quelque sorte, on ne sait pas quel sera le futur.
Oui, alors ça, justement, en lisant la presse contemporaine de la Révolution, ça m'a frappé. Comme nous, à quel point c'est impensable ce qui peut se passer demain. Et je me souviens de textes de cette époque où les gens évaluent la possibilité que peut-être Marie-Antoinette soit régente, ou tout est possible, tout est possible. Pas seulement dans les révolutions, tout le temps. Et ça, c'est pour ça que ces livres sont écrits au présent, et ils sont écrits dans l'ignorance de ce qui peut advenir, et dans un tremblement de... C'est ça que j'aime vraiment et je reviens encore à la Semaine Sainte d'Aragon parce que c'est un modèle. C'est un livre de génie sur l'inconnu qu'on porte avec soi et que l'histoire ne cesse de renouveler. Que ce soit une catastrophe, en général c'est une catastrophe.
L'histoire à l'échelle des individus et de leurs incertitudes.
Voilà, exactement. Et c'est ça que je trouve magnifique et troublant.
Il y a un thème qui traverse aussi vos œuvres, Chantal Thomas. On a commencé à en défricher un certain nombre, mais il y a aussi le thème de l'éducation des femmes.
Oui.
C'est la question qui est posée dans le Testament de l'Arbre, à l'envers, en quelque sorte. C'est plutôt l'ignorance qui est interrogée. Et dans un autre sens, que vous intéressez aux salonnières, c'est dans l'esprit de la conversation. Là, on est plus du côté de l'essai. C'est aussi la question que vous interrogez. Et donc, tout simplement, cette façon de rentrer aussi dans ce 18e siècle, vous allez chercher des figures de femmes ignorantes ou savantes. Comment est-ce que ça vous est venu ?
Oui, moi, là il faut aussi penser au 17e, au premier salon, au Salon des Précieuses. Moi, j'aime cette histoire des salonnières. Je la trouve non seulement très belle, mais aussi très émouvante sur comment c'est à la fois des femmes qui prennent un certain pouvoir intellectuel, mais aussi des femmes qui jouent le rôle d'hôtesse, en effet, celles qui accueillent, celles qui font circuler la parole, celles qui sont en retrait. Mais c'est aussi des femmes qui n'écrivent pas, sauf exception. Ça sera Madame de Staël, mais c'est beaucoup plus tardif. Ou Madame de Tencin, mais c'est un peu mineur. Ce sont des femmes qui n'écrivent pas, qui n'ont pas eu l'éducation qu'elles voulaient. Et là je pense à Madame du Deffand, que j'adore, qui est vraiment un écrivain extraordinaire dans ses lettres, et qui ne cesse de dire à quel point c'est un malheur d'avoir subi l'éducation qu'elle a vécue, elle et toutes les femmes de son siècle et au-delà, qui étaient essentiellement apprendre à broder et à prier. Et donc, en la lisant, j'ai aussi compris que ce qu'elle demandait à ces hommes prestigieux qui passaient dans leur salon, c'était de les éduquer. Et ça, c'est... Et c'est quelque chose qui ne cesse de me faire réfléchir, ce gâchis incroyable concernant l'intelligence des femmes. Et comment de siècle en siècle, et c'est très récent, et c'est dans nos sociétés que ce changement a eu lieu, comment pendant si longtemps, cette capacité, cette inventivité, cette fantaisie, cette folie aussi, et ne pouvait pas s'exprimer. Et du coup, était quelquefois renversée en dépression, en pathologie, en malheur. Donc oui, c'est un thème qui m'anime.
Pour vous, Chantal Thomas, donc ces précieuses n'ont rien de ridicule.
Ah, surtout pas, non. Et c'est la seule chose que je reproche à Molière, c'est les précieuses ridicules. Parce que malheureusement, le ridicule tue, et dès qu'on dit précieuse, en effet, on pense ridicule. Et à l'école, je me souviens, j'apprenais par cœur des tirades contre moi-même. Moi, j'adorais le latin, le grec, et ben, je disais ça.
Il faudrait parler, Chantal Thomas, un peu plus longuement de Madame de Staël, puisque c'est un personnage important. Vous l'avez cité en passant tout à l'heure, comme finalement cette première femme véritablement intellectuelle, au sens qu'on pourrait lui donner aujourd'hui, capable d'intervenir dans l'espace public, d'écrire, de publier, qui a une relation avec un autre intellectuel, évidemment, qui est Benjamin Constant, et qui est très importante pour vous, pour différentes raisons que j'aimerais que vous nous exposiez.
Oui, je sais que Madame de Staël est très connue, mais en même temps, je ne pense pas qu'elle soit tellement lue. Et je pense que le caractère extraordinaire de sa dimension intellectuelle doit être souligné. Et justement, on revient un peu à Roland Barthes, elle est vraiment une femme dont l'intelligence était tendue vers le désir d'abord de comprendre cette. D'abord, c'était une intelligence politique, ce qui est exceptionnel dans l'histoire intellectuelle des femmes, à cette époque en particulier. C'est une intelligence politique, et elle et Benjamin Constant ont vraiment voulu comprendre qu'est-ce qui s'était passé, comment avait été possible la césure, le gouffre de la terreur. Et ils n'ont jamais voulu renoncer au principe de 89, tout en se heurtant à cette catastrophe de la terreur. Donc ça, c'est ce qui l'anime intellectuellement, politiquement. Mais ce qui l'anime aussi, c'est comment démêler la force intellectuelle et éclaircissante et élucidante et incroyablement analytique qu'elle avait, comment la faire jouer avec sa capacité passionnelle assez désastreuse. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'elle a vraiment voulu émerger de l'abîme passionnel par l'intelligence.
Quand on pense à Madame de Staël, on pense aussi...
Et elle n'y est pas arrivée.
Elle n'y est pas parvenue. Voilà. Quand on pense à Madame de Staël, on pense aussi à cet art de la conversation, oui. À ce passage, je ne sais plus dans lequel de ses écrits, mais je me souviens d'avoir relu chez Heinz Wissmann dans son livre sur Entre les langues, et donc entre l'allemand et le français, oui. Et qui fait du français cette langue propre à la conversation.
Oui, il y a un idéal peut-être utopique qui relie le français, l'art de vivre français et la conversation. Et par exemple, quand Talleyrand est exilé aux États-Unis, il parle des Français qui font 200 ou 300 kilomètres pour avoir une conversation avec un autre Français. Et Madame de Staël, vous savez, à cette phrase, alors qu'elle avait découvert la littérature allemande, elle est celle qui a fait entrer sur la scène littéraire française les littératures étrangères, en particulier la littérature allemande. Mais elle a cette phrase assassine sur la langue allemande où elle dit... ce qui est terrible en allemand, c'est que comme le verbe vient à la fin, on ne peut pas couper quelqu'un en train de parler. Il faut attendre. Et elle ajoute, c'est pourquoi c'est si lent, les conversations en allemand, alors que tout le bonheur, c'est évidemment d'être rapide, de couper la parole aux autres, etc. Et moi, je me suis beaucoup intéressée au manuel de conversation, à cet idéal qui était porté dans l'art de la conversation. Et l'abbé Morellet, par exemple, donne toutes les règles. Et ces règles, quand on s'aperçoit après un dîner avec des amis, qu'on les piétine, mais sans arrêt. Sans arrêt. Entre autres, il y a, en effet, ne pas couper la parole aux autres, ça va de soi. Mais il y a des choses très intéressantes aussi. Ne pas faire conversation à part. Parce que la conversation, c'était une sorte de... Oui, d'opéra. Donc il fallait que chacun joue sa partie, sans faire basculer. Et puis, pas être pédant, ça, on sait éviter ces lieux. Voilà, il y a un certain nombre de règles.
On ne va pas toutes les citer ici, évidemment, Chantal Thomas. Je m'accroche à ce que vous avez dit, ce sera comme une parenthèse, parce que c'est un peu rien à voir avec ce que vous venez de dire. Mais vous avez parlé de Talleyrand aux États-Unis, ça m'a fait penser à un lieu qui est important pour vous, qui est New York, où vous êtes rendu, je crois, à la fin des années 70, et qui a donné une série de nouvelles, La vie rêvée des petites filles. tu peux dire que ça avait été inspiré de Bécassine. Vous sentiez un peu cette question, finalement, de la bêtise. Vous sentiez étranger. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi cette découverte de New York, et en quoi ça a donné lieu à ces nouvelles, genre très anglo-saxon, d'ailleurs, qui est assez peu pratiquée
alors,
en France?
Dès que j'ai passé ma thèse sur ça, j'avais dans ma poche mon ticket pour New York. Je suis partie 3 jours après. Et c'était le plein été, et ça m'a vraiment ravie. Donc je me suis dit, je reviens. Et moi, je sortais vraiment de ce séminaire de Roland Barthes, vraiment habitée d'un désir d'intelligence constant. Et je crois qu'en arrivant aux États-Unis, je me mets à écrire sur Bécassine, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas très longtemps que j'ai mis les deux événements, les deux pans de ma vie ensemble. Je n'avais pas vraiment fait le rapport, mais je pense qu'il y en a un, oui.
Probablement, je ne sais pas si l'actuel président des États-Unis y est pour quelque chose, sur la bêtise, de l'idiotie, évidemment, qui nous saisit à chaque fois.
Ah oui, mais pour moi, entre Trump et Bécassine, il y a
un monde.
Ah bah oui, ah oui, non.
Si on revient justement à ces années intellectuelles, au séminaire de Roland Barthes, vous me disiez, voilà, je passe ma thèse et hop, je pars à New York. Chantal Thomas, il y a une question qui lie peut-être aussi ce qu'on vient de dire sur les romans et votre souci d'intellectuel, c'est la recherche finalement d'une certaine forme d'intimité.
Oui.
Intimité du séminaire de Roland Barthes,
oui.
Intimité... Des philosophes ou des intellectuels que vous étudiez, vous allez chercher finalement ce qui, dans leur intimité, peut oui. révéler quelque chose de leur pensée.
Oui, ça, pour moi, ça a été, il y a eu plusieurs enseignements, mais un des grands enseignements de ces années, c'était d'être dans l'intimité de quelqu'un qui écrit et de quelqu'un aussi qui vibre émotivement, les deux. Et tout à l'heure, je parlais du maître zen. C'est aussi la capacité, tout en livrant ses émotions, de maintenir une distance. C'est un peu cette chose qui est presque contradictoire et déchirante. C'est ça qui me tenait, qui continue de me tenir dans cet espace intellectuel et romanesque.
Vous évoquiez la déception face aux études de philosophie. Est-ce que c'est quelque oui. chose qui vous a manqué, justement est-ce que vous pensez que vous auriez été plus intéressé si on avait abordé cette question de la philosophie à travers l'intimité, je ne sais pas, d'un Emmanuel Kant, par exemple, connaître ses manies, sa façon de...
Bah, Emmanuel Kant, j'ai lu 2 livres sur la biographie d'Emmanuel Kant. Je ne crois pas que ça m'aurait rapproché de lui, non.
Mais peut-être plus intéressé à sa pensée. Est-ce que ça vous paraît important de connaître finalement l'histoire, le parcours, l'intimité d'un penseur pour mieux comprendre ?
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, je veux que quand je lis un texte, quelque chose d'une personne, de la singularité d'une voix qui ne pouvait s'actualiser qu'à ce moment-là et que par ce texte passe. Donc, voilà. Mais pas avoir devant moi ou devant les yeux un système écrit par un sujet mis entre parenthèses et dont on apprend par ailleurs qu'il est perclus de manies aberrantes. Non.
Vous avez pu déclarer, Chantal Thomas, que votre vie, finalement, ces années d'étudiant, vous aviez voulu les prolonger un petit peu.
Ah oui, mais je l'ai.
Jusqu'à aujourd'hui.
Mais oui, mais c'est vrai. Je veux dire, lire, écrire, c'est ce que je fais.
Et ce lien entre la pensée et la sensualité qu'on évoquait à propos de Versailles, à propos, évidemment, quand on pense à Sade ou même à Casanova, c'est absolument central. C'est vrai qu'on fait un peu, finalement, en revenant sur votre œuvre, en revenant sur votre œuvre, on arrive comme ça à dégager des lignes de force. Est-ce qu'à posteriori, ça vous paraît finalement inséparable, la pensée et cet aspect charnel ?
Moi, je pense, oui, parce que que les penseurs soient des êtres vivants, je pense que c'est ça que j'aime sentir. Et c'est pourquoi, quand j'ai lu Nietzsche, j'ai vraiment eu une grande révélation de sentir quelqu'un qui pense pour vivre, pour survivre, pour tracer un cheminement qui n'est qu'à lui.
Puisqu'on s'intéresse à l'écriture, à votre façon d'écrire, Chantal Thomas, à celle de celles et ceux que vous avez pu étudier, il y a d'autres formes d'écriture auxquelles vous vous êtes essayé. On a parlé des essais, de l'autobiographie, du roman. Il y a aussi le théâtre et le cinéma. Puisque, par exemple, pour l'adaptation d'Échange des princesses avec Marc Duguin, vous avez participé à l'écriture. Quelle différence faites-vous, vous qui êtes en plus une cinéphile, qui avait écumé les ciné-clubs toujours dans ses années étudiantes, est-ce qu'il y a une approche différente? Est-ce que ça se prépare différemment? Ça se pense différemment?
Je dois dire, quand j'ai travaillé avec Marc Duguin donc sur l'échange des princesses, c'est ce que j'allais dire, il y a quelque chose de facile et presque une connivence qui était de travailler avec un écrivain. Et quand on a repris le roman, on l'a traversé ensemble pour découper les scènes qui nous paraissaient fondamentales, on est tout de suite tomber sur les mêmes. Et je pense aussi que le désir qu'il avait de faire ce film était lié et lié à une certaine vision ou fêlure d'enfance obscure à travers lesquelles ce film lui permettant de les découvrir ou de les imager, de leur donner forme. Et c'est exactement ça, cette démarche qui m'a fait écrire le livre. Donc, vous voyez, le passage du roman au film, c'est comme une même musique qui nous conduit à travers des formes diverses, je dirais.
C'est drôle parce que tout à l'heure, on parlait de la volonté ou non de pouvoir réécrire un livre que vous auriez déjà publié, et ça ne nous est pas apparu comme une réécriture, ce passage au cinéma. Est-ce que le cinéma relance le roman?
Non, c'est plutôt dans l'esprit des variations, de passer d'un lieu qui ne tient que par le langage, qui est le roman, à une forme d'art où roman, où image et parole se relancent. C'est ça la grande différence. Et comment certaines répliques minimales, à un certain moment, dans un certain contexte, par rapport à une certaine couleur du ciel, veulent dire.
Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art qui nourrissent votre travail, Chantal Thomas?
La peinture, oui, je regarde beaucoup de tableaux. Oui, j'ai un culte pour Bonnard, par exemple. Mais Fragonard aussi, oui.
Mais puisque Bonnard, on n'est pas tout à fait au XVIIIe siècle.
Non, mais je ne suis pas que du XVIIIe siècle. J'ai écrit un livre sur Thomas Bernhard, comme vous avez dit. J'écris pour des pièces de théâtre pour Alfredo Arias.
L'île flottante.
Comment supporter sa liberté, c'est maintenant.
Roland Barthes, évidemment.
Roland Barthes, il me semble, c'était il n'y a pas très très longtemps.
Non, en tout cas, ce n'était pas au XVIIIe siècle, pas que je sache.
Peut-être déjà, mais bon.
Justement, ce travail avec le metteur en scène argentin, mais qui est bien installé en France maintenant, Alfredo Arias, j'ai presque envie de vous poser un peu la même question. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette écriture théâtrale que vous ne trouvez pas ailleurs, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est ça, l'idée, c'est d'aller trouver, en explorant ces différentes formes, peut-être des approches du monde différentes.
Mais toutes les choses se passent, toutes les rencontres ou les passages d'une forme d'art à une autre, elles se passent sur le mode du voyage, justement. C'est des personnes qui me plaisent, dont je connaissais déjà les œuvres, et puis un jour, ça se produit. Donc, ce qui est sûr, c'est que d'écrire le Palais de la Reine pour Alfredo Arias, c'est quelque chose que je ne sais pas du tout faire passer dans les romans, où je ne suis pas du tout drôle dans les romans. Mais au théâtre, si. Donc c'est...
Vous voulez expliquer comment ça se passe ?
Non, je ne sais pas du tout pourquoi. Non.
Il y a une question rituelle. Dans ces masterclass, je vais terminer par là, Chantal Thomas, puisqu'on arrive au bout de cette heure de conversation avec vous. C'est la question de savoir si la réception publique ou critique de votre œuvre, c'est quelque chose qui vous importe.
Alors, quand j'écrivais des essais, je ne pensais pas vraiment qu'ils pouvaient être vraiment lus. Donc, je pense que le point de vue de l'essayiste et le point de vue du romancier est très différent. Donc, je me posais pas du tout la question. Non. J'étais éblouie quand il y avait un article. Je trouvais ça de l'ordre de la magie. Et puis, quand j'ai écrit Les Adieux à la Reine, qui était mon premier roman, dans la mesure où j'ai eu le prix Fémina, et déjà il était très lu, je me suis aperçue que ce livre, qui est quand même un livre, c'est quand même mince comme point de vue sur l'histoire, que ce livre touchait beaucoup de personnes. Donc moi, ça m'a rendue très heureuse. Et aussi, plus largement, c'est quelque chose qui, en moi, a changé, au sens où j'étais pas du tout quelqu'un du côté de l'empathie. Même, je crois que c'est quelque chose que je comprenais pas très bien. Et je pense que j'avais une tendance vers l'indifférence. Et progressivement, et je dois dire, avec les années, les rencontres et l'écriture, l'écriture, oui, et aussi des choses dites et qui changent votre perception, l'empathie est devenue vraiment un des principes et de mon écriture et de ma vision et de ma... Oui. Donc oui, ça compte énormément, je dirais. Par exemple, la manière dont un livre peut voyager de l'objet livre au cinéma ou au théâtre, je trouve ça merveilleux. Et aussi, d'une langue à l'autre, ça m'importe, ça m'est très important. Ça me donne un bonheur, et surtout quand c'est une langue qui m'est... par exemple en chinois, ça me comble.
Merci beaucoup, Chantal Thomas.
Merci à vous.
C'était la masterclass de Chantal Thomas avec Raphaël Bourgois. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Djergaillan.